Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Tous les samedis entre 12h et 13h, juste après Vibra SOS, vous écoutez Biotine, l'émission de science, l'actualité scientifique, l'actualité médicale, l'actualité technologique décryptée pour vous pendant une heure dans cette émission Biotine. Je m'appelle Jean-Noël et je suis très heureux de vous retrouver sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et bien sûr graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet en direct ou en différé parce que vous avez bien sûr la possibilité de pouvoir récupérer les podcasts de toutes les émissions de Graphite. Vous pouvez suivre, bien sûr, je le rappelle pas assez souvent, vous avez la possibilité de suivre l'actualité de Graphite sur, bien sûr, la page Facebook et le compte Twitter. Graphite vous propose tous les samedis de vous intéresser pendant une heure à l'actualité scientifique et cette émission Biotine démarre traditionnellement, maintenant, ça devient une habitude, par l'éphéméride d'aujourd'hui, samedi 19 octobre. Ce n'est pas une journée internationale spécifique, il n'y a rien aujourd'hui, bon bah très bien, mais en tout cas il y a eu des 19 octobre assez marquants, notamment la fondation du CNRS il y a 80 ans, c'était le 19 octobre 1939, le Centre National de la Recherche Scientifique. En 2016, l'atterrisseur Schiaparelli, je vais y arriver, atteint Mars 2016, je vous dis que depuis maintenant quelques années c'est Mars qui fait l'actualité. Et 2017, toujours un 19 octobre, le tout premier astéroïde détecté ayant une origine extrasolaire est donc confirmé. C'est la découverte de Oumuamua, cet astéroïde qu'on a nommé comme ça, je ne sais pas pourquoi, il y a 2 ans. Au niveau de l'éphéméride, la naissance le 19 octobre 1909 de Marguerite Perret, qui est une chimiste française. Elle est connue pour avoir isolé le francium en 1939. Ayant repris ses études pendant la guerre, Marguerite Perret soutient un doctorat de sciences à la Sorbonne en 1946 sur justement cet élément 87 et elle devient maître de recherche au CNRS, à l'Institut du Radium, sous la direction d'Irène Joliot-Curie jusqu'en 1949. Elle est alors nommée professeure titulaire de la chaire de chimie nucléaire à l'Université de Strasbourg et le 12 mars 1962, elle est la première femme élue correspondant de l'Académie des sciences. À partir du début des années 1950, les nombreuses douleurs qu'elle ressent perturbent ses activités. En 1958, le docteur Warren, qui est un Américain, lui fait passer un scanner de son corps en entier. Un scanner qui révèle la contamination de l'ensemble de son squelette à cet actinium du fait des nombreuses manipulations des sources de ce radioélément au cours de sa carrière. Un cancer des os lui est diagnostiqué en 1960. Elle doit donc arrêter ses activités scientifiques. Elle s'installe à Nice pour se faire soigner dans une clinique où la progression de la maladie l'affaiblit progressivement. Le cancer finit par se généraliser. Elle meurt en 1975. Marguerite Perret a eu à cœur d'introduire dans ses laboratoires des mesures de protection justement contre ces rayons ionisants. Marguerite Perret, voilà, née le 19 octobre 1909. Toujours dans l'éphéméride, il est mort, lui, le 19 octobre 1878 à Padoue. C'est le naturaliste italien Agostino Perini qui passe son enfance dans l'exploitation familiale et il développe très tôt un fort amour de la nature. Il entre en 1819 dans un collège en Moravie, mais il le quitte bientôt pour aller à Vienne. Il revient à 30, il aura beaucoup voyagé, il devient forestier, il enseigne le dessin à l'école normale de la ville. Il va acquérir alors de solides connaissances en sciences forestières, en botanique, en agronomie ainsi qu'en sériciculture. Agostino Perini, mort un 19 octobre 1878, naturaliste italien. Voilà pour l'éphéméride. Alors je vous parlais de Marguerite Perret qui avait isolé le francium en 1939. Le francium, eh bien c'est ce que je vous propose de remplir au niveau du tableau périodique des éléments à l'occasion donc de cette année internationale du tableau périodique des éléments de Mendeleïev, ce fameux tableau que l'on avait dans nos salles de classe. Le francium, c'est un produit radioactif qui a donc été découvert par Marguerite Perret, comme je vous l'ai dit. C'est le second élément le plus rare de la classification périodique. Il n'en existerait qu'une trentaine de grammes dans la croûte terrestre. C'est dire, cette rareté est due à son existence totalement transitoire en tant que produit de désintégration de l'actinium. Du fait de son caractère instable et du fait qu'il soit rare, il n'y a pas d'application commerciale du francium. Il n'est utilisé que dans la recherche, à la fois dans le domaine de la biologie et celui de la physique atomique. Il a été imaginé qu'il puisse être une aide dans le diagnostic de maladies cancéreuses, mais cette application s'est révélée impossible pour l'instant. Donc on essaiera d'en savoir un peu plus de cet élément, le francium, symbole chimique grand F petit r, ce qui semble assez logique. Et c'était la case 87 qu'on a remplie tous ensemble dans ce tableau périodique des éléments. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Nous sommes le 19 octobre. Je me dois donc de vous parler de ce qui va se passer demain. Événement très important pour Graphite, c'est la bourse aux disques et aux bandes dessinées organisée demain par Graphite au centre de rencontre de la Victoire à Compiègne. C'est gratuit, c'est de 9h à 18h. Et c'est déjà, et ça passe à une vitesse folle, déjà la 8e bourse aux disques et aux bandes dessinées qui est donc organisé par Graphite. Donc allez-y, c'est vraiment intéressant pour ceux qui sont des fans de BD, des fans de disques, et puis ça vous permettra aussi de rencontrer l'équipe de Graphite sur place demain au centre de rencontre de la Victoire toute la journée, Compiègne bien sûr. Vous écoutez Biotine, émission scientifique et émission musicale bien sûr. Comme toujours, un peu de musique, ça nous fait du bien parce que l'actualité scientifique que nous avons évoquée dans cette émission est encore lourde, encore. From poison waves. Axe to the Moon, c'était Kodama sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine, l'émission de science tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. Et vous avez bien raison, je vous envie, tellement sympa de pouvoir écouter tous les samedis pendant une heure cette émission. Mec totalement modeste évidemment. Et on va parler un petit peu. Alors, autant les émissions précédentes, celle de début octobre était quand même assez anxiogène, autant là on va essayer un petit peu de, je sais pas, d'avoir quelque chose de plus léger au niveau de l'actualité scientifique, notamment ce casse-tête. Un casse-tête qui turlupinait les scientifiques depuis de nombreuses années. Et ce casse-tête vient enfin d'être résolu. Des chercheurs du MIT, c'est quand même pas n'importe quoi le MIT, considéré comme l'un des plus grands centres de recherche du monde entier. Ces chercheurs viennent de découvrir la technique. Mais c'est génial, la technique de quoi ? La technique pour casser un spaghetti en deux morceaux. L'énigme, elle est restée entière depuis que le physicien américain et prix Nobel, pas n'importe qui, Richard Feynman, passait des heures à casser des spaghettis dans sa cuisine et il a fait remarquer que le spaghetti se brisait systématiquement en trois ou quatre morceaux, mais jamais en deux. Alors si vous êtes dans votre cuisine et que vous êtes en train de déjeuner, je vous souhaite déjà un bon appétit, vous avez peut-être des spaghettis à proximité, eh bien faites l'expérience, vous n'arriverez jamais à casser un spaghetti en deux morceaux. Il sera toujours au minimum en trois morceaux. Eh bien, il y a eu des chercheurs français en 2005 du laboratoire de modélisation mécanique de l'université Pierre et Marie Curie. Ils s'appellent Basile Odoli et Sébastien Neukirch. Ils avaient fourni l'explication du phénomène. Il y a donc pas loin d'une quinzaine d'années. Ils expliquaient que lorsque le spaghetti est plié, eh bien, il se forme une onde de surcourbure qui se propage de bout en bout du spaghetti. Même les bouts déjà cassés subissent cette onde, ce qui fait que le spaghetti continue à se briser en plusieurs morceaux après la première cassure. Cette brillante démonstration avait été récompensée d'un prix IG Nobel. Pas un prix Nobel, un prix IG Nobel. Vous savez, on en a parlé, je crois, fin septembre, ces fameux prix qui distinguent des recherches un petit peu particulières. Ils avaient eu ce prix en 2006. Le problème semblait donc impossible à résoudre. Eh bien non, ça y est, on a enfin trouvé la solution, et notamment deux étudiants du MIT qui sont particulièrement persévérants, Ronald Esser, Vishal Patil. Ils ont passé des heures à torturer des spaghettis dans tous les sens pour découvrir enfin comment les casser proprement en deux. Alors faites l'expérience, donc, si vous avez des spaghettis avec vous. Pour leur test, ils ont fixé le spaghetti entre deux pinces. L'une tournait le spaghetti à différents degrés, un petit peu comme on essore un torchon en fait, et l'autre le courbait jusqu'à ce qu'il cède. Et ils ont filmé le tout en utilisant une caméra hyper perfectionnée qui permettait d'enregistrer 1 million d'images par seconde pour pouvoir justement voir tout point par point ce qu'il se passait. Le secret, donc, pour obtenir deux morceaux de spaghetti et de le tordre à 360 degrés, c'est-à-dire de lui faire faire un tour complet sur lui-même avant de le courber délicatement. Donc ça peut être une superbe expérience de magie que vous pouvez faire avec vos amis, par exemple. La force de torsion se propageant plus rapidement que celle de cette fameuse surcourbure, eh bien elle dissipe l'énergie de cette dernière, ce qui prévient des cassures supplémentaires. C'est ce que détaillent donc ces deux chercheurs. La technique fonctionne pour différents diamètres de spaghettis. Alors ils ont testé notamment les spaghettis Barilla numéro 5, voire les numéro 7, vous savez, ceux qui sont un petit peu plus gros en fait, un peu plus épais. Et on leur pose la question parce que tout le monde s'inquiète en disant mais avec d'autres formes de pâtes comme par exemple les linguini qui sont un petit peu des nouilles plates, eh bien on ne sait pas, c'est-à-dire que le modèle qui a été développé ne concerne que les pâtes à section cylindrique, en clair uniquement les spaghettis. Tous ces efforts, bien sûr, pour un simple spaghetti, ça peut sembler futile bien évidemment, et je vous entends déjà en train de vous dire mais qu'est-ce que c'est que cette émission, on parle des spaghettis qu'on essaye de casser en deux. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ces recherches, si on peut les appeler comme ça, ça peut servir à d'autres applications. Alors, du côté sportif, ça peut être intéressant au niveau du saut à la perche, mais ça permet aussi de comprendre la façon dont un os peut se fracturer également. L'étude des contraintes qui sont appliquées aux matériaux est très utile dans le domaine des infrastructures, notamment pour étudier la résistance d'un pont ou pour mettre au point des bâtiments antisismiques. Donc voilà, c'est les applications de cette technologie, enfin en tout cas de cette découverte, peut avoir des applications vraiment importantes et intéressantes. On part d'un spaghetti et on finit par construire des bâtiments antisismiques. Vous voyez, c'est ça la science en fait. Mais bon, on en avait déjà parlé il y a quelques années de ces spaghettis qu'on n'arrivait pas à casser en seulement deux morceaux. Donc faites l'expérience et vous verrez, faut tordre un bout seulement, vous le tordez à 360 degrés, un tour sur lui-même, et après vous le courbez, normalement ça se casse en deux morceaux seulement. C'est dommage, je n'ai pas de spaghettis dans le studio, j'ai beau regarder, j'essaierai de faire l'expérience également pour voir si c'est vraiment ça, si on ne nous raconte pas des balivernes. Autre information, comme on est en train de déjeuner, enfin vous êtes en train de déjeuner pendant que moi je parle, c'est ça qui est quand même cruel dans cette histoire, c'est que je continue à parler et vous êtes en train de pouvoir profiter de votre déjeuner, vous avez bien raison. On va parler du régime alimentaire des corbeaux, c'est un petit peu moins ragoûtant bien sûr. C'est un oiseau qui est opportuniste, c'est-à-dire qui se nourrit de tout ce qui se passe à sa portée. Alors, en général, il mange des insectes, des charognes, des céréales, des baies, mais le corbeau des villes, lui, il a trouvé un nouveau plat qui lui plaît bien, c'est le cheeseburger. Le problème, c'est que comme pour nous, hein, ce goût immodéré pour le fast-food n'est pas sans conséquence pour sa santé. Il y a une étude publiée il y a quelques semaines dans la revue spécialisée The Condor qui montre que des ornithologues du collège Hamilton, c'est dans le nord de l'état de New York, ont travaillé sur l'analyse de taux de cholestérol, sur le poids, sur la masse grasse, sur le taux de survie des oiseaux de 140 nids, des corbeaux, dans des régions urbaines d'un côté et dans des régions rurale de Californie de l'autre. Ils ont travaillé pendant 3 ans et ils ont constaté que plus les corbeaux vivent près d'une zone urbaine, plus leur taux de cholestérol est élevé. Et pour confirmer que le fast-food est bien à l'origine de ce taux élevé de cholestérol, ils ont disposé 3 cheeseburgers par jour devant les nids des corbeaux qui vivaient en campagne durant 6 semaines. Ils se sont rendus compte que le taux de cholestérol était en hausse dans le plasma sanguin de ces corbeaux qui étaient maintenant nourris dans les campagnes avec des cheeseburgers. Ce n'est pas la première étude à démontrer les effets d'une nourriture urbaine sur les animaux. On en avait déjà parlé dans cette émission, je crois que c'était l'année dernière, il me semble. Il y avait des précédentes recherches qui avaient établi des taux élevés de cholestérol chez des moineaux, chez des renards, même des tortues qui fréquentent les zones urbaines ou les zones touristiques. Pour de nombreuses espèces, la ville joue un rôle de niche écologique où elle trouve de la nourriture en abondance dans les ordures, les poubelles, les déchetteries. Et du coup, si cette nourriture, souvent de mauvaise qualité, affecte parfois la santé de ces animaux et réduit à la longue leur aptitude à s'alimenter par eux-mêmes, elle n'est pas forcément néfaste. C'est ce qu'indique Andrea Tofsten, qui est la principale auteure de cette étude. Les corbeaux des villes ont d'ailleurs un taux de survie plus élevé que leurs homologues des campagnes. C'est ce que note l'étude. Tiens, c'est un petit peu une contradiction. Les oiseaux nourris au cheeseburger ont également un poids plus élevé, ça m'étonne pas, ce qui est généralement considéré comme un signe de bonne santé chez les oiseaux, nous dit-on, car ils sont moins sujets aux maladies. Alors, il y a d'autres études qui ont également montré que la nourriture facilement disponible des poubelles pouvait améliorer le taux de reproduction de certains oiseaux comme les geais, ou le taux de survie hivernale des passereaux également. On sait qu'un taux élevé de cholestérol est mauvais pour les hommes, mais on n'en a aucune idée de l'effet sur les animaux. C'est ce que reconnaît Andrea Tofsten. En réalité, on ne sait même pas quel taux de cholestérol peut être considéré comme excessif chez le corbeau, hein, c'est ce qu'elle annonce également. Il existe en revanche un danger bien plus grand que les cheeseburgers pour les oiseaux vivant en ville, ce sont les immeubles, parce qu'on explique qu'entre 100 millions et 1 milliard d'oiseaux sont ainsi victimes de collisions avec les gratte-ciel chaque année aux États-Unis, notamment à New York, d'après une précédente étude de 2014. En conclusion, les gratte-ciel sont quand même plus importants pour les oiseaux, qui, et notamment les corbeaux, qui mangent des cheeseburgers, et pour eux, ça leur va, en fait. On est en train de modifier le comportement alimentaire de ces pauvres bêtes. Mon Dieu, mon Dieu. On parlera des maladies cardiovasculaires et de savoir qu'est-ce qu'il faut manger pour réduire ces risques de décès juste après un nouveau titre. C'est toujours une thématique médecine, animaux, nourriture. C'est ça aussi, Graphite, de l'émission Biotine. À tout de suite.
again. And my feet are sweating deep beneath the sheets. My bed's tight like a shoelace, but I bit my fingernails right to the skin. And I feel myself spinning. It's so hard to rest when the walls keep screaming at me. I find it hard to sleep. There's a strobe in my mind every time I shut my eyes. There's a light bulb in my mouth and a battery in my throat, waiting for it to burn out, but there's a battery in my throat. There are ashes on my tongue and burning in my lips. There's burning in my lips, there's a burning in my lips.
Eh bien, ça vous réveille. Je vous sentais un petit peu mollasson, je l'avoue, et je me suis dit, j'avoue, mettre Lysistrata, ça va vous réveiller, ça va vous donner une pêche. Et comme ça, vous allez être encore plus attentif pour pouvoir goûter la suite de cette émission. Vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique tous les samedis, entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite, bien sûr. Mais oui, mais il ne faut pas toujours écouter des musiques un peu sirupeuses comme ça, pendant qu'on est en train de déjeuner, on va digérer, tout ça, ça nous endort. Heureusement, il y avait Lysistrata sur l'antenne de Graphite. Alors, je vous disais que nous allons continuer cette émission. Alors, j'essaye de trouver une transition, mais je crois que c'est... je vais abandonner pour vous parler de cette étude iranienne. C'est pas souvent qu'on parle de l'Iran dans cette émission, parce qu'on n'associe pas très souvent au niveau de l'actualité l'Iran et la science, mais en tout cas une étude iranienne qui a été présentée lors du congrès mondial de cardiologie qui a eu lieu à Paris début septembre. Et cette étude iranienne affirme que manger des noix, des pistaches ou des amandes au moins deux fois par semaine pourrait réduire les risques de 17% de mourir d'une maladie cardiaque. L'étude a été réalisée sur plus de 5400 personnes, des adultes originaires d'Iran, âgés de 35 ans et plus. Une étude réalisée par des chercheurs de l'Institut de recherche cardiovasculaire d'Ispahan en Iran. Les travaux ont porté sur la composition riche en polyphénols, en fibres et en minéraux de ces aliments et leurs éventuelles vertus protectrices contre les maladies cardiaques. Des études européennes et américaines ont établi un lien entre les fruits à coque et la protection cardiovasculaire, mais les preuves sont limitées dans la région de la Méditerranée orientale. C'est ce qu'explique le docteur Nousin Mohamed Diffar, qui a dirigé donc cette étude. Il explique que les noix sont une bonne source de gras insaturés, contiennent peu de gras saturés. Alors au début de l'étude, les participants ne présentaient pas d'antécédents de maladies cardiaques. Ces derniers ont été interrogés tous les deux ans pendant une période assez longue, hein, entre 2001 et 2013. Et on les a interrogés donc pendant cette période sur leurs habitudes alimentaires. Et tout au long de cette période de suivi, on a identifié 750 troubles cardiovasculaires chez ces volontaires. Et les résultats de la recherche indiquent que les personnes qui ont consommé des noix deux fois ou plus par semaine présentaient un risque de décès cardiaque réduit de 17% comparé aux personnes qui n'en mangeaient qu'une fois toutes les deux semaines, voire moins. Ces estimations tiennent compte de facteurs annexes, hein, comme l'âge, le sexe, l'éducation, le tabagisme, le niveau d'activité physique. Et selon les recommandations de la Société européenne de cardiologie, 30 grammes de noix non salées par jour sont considérées comme l'une des caractéristiques d'une alimentation saine. Et donc, d'après ce docteur iranien Mohamed Diffar, les noix fraîches crues représentent l'alternative la plus saine car les graisses insaturées peuvent s'oxyder dans les, noix périmées, ce qui les rend nocives. Donc voilà, manger des noix réduirait de 17% le risque de décès de maladies cardiovasculaires. Eh bien, vous mangez donc des spaghettis que vous coupez en deux et vous mangez des noix et ça devrait bien se passer apparemment. Autre chose, une étude avait montré il y a 2 ans que les personnes qui utilisaient des smartphones ou d'autres équipements électroniques, des tablettes ou autres, eh bien, connaissaient des difficultés à comprendre les textes au contenu scientifique qui leur était donné à lire. Aujourd'hui, il y a des nouveaux travaux qui viennent confirmer cette étude et qui donnent une possible explication du phénomène. Des chercheurs de l'université de l'État de Pennsylvanie ont eu recours à l'imagerie par résonance magnétique. En fait, c'est une imagerie qui permet de pouvoir explorer l'activité du cerveau. Ils ont découvert que l'envoi fréquent de textos avec les smartphones ou la lecture sur une tablette sont corrélés de façon négative avec l'activité des zones du cerveau essentielles à l'intégration de textes complexes, comme c'est le cas notamment des textes scientifiques, parce qu'ils contiennent généralement ces textes des informations qu'on appelle interconnectées. C'est pas simplement un truc tout simple à lire, mais il faut avoir une certaine réflexion et un certain effort à produire pour essayer de comprendre le contenu. Et ces interconnexions sont importantes, justement, ces informations doivent être liées les unes aux autres par le lecteur pour qu'il puisse comprendre le sens général du texte. Et on s'est rendu compte que ceux qui utilisent quotidiennement et de manière excessive leur smartphone semblent développer des difficultés à hiérarchiser et à structurer les concepts scientifiques. C'est ce qu'explique Peng Li, qui est professeur de l'Université de l'État de Pennsylvanie et qui est donc le dirigeant de ces travaux de recherche. Des chercheurs qui soulignent malgré tout que des travaux supplémentaires devront être menés pour établir un lien de cause à effet. Cependant, ces travaux pourraient dès à présent avoir des implications pour l'éducation. Peng Li explique qu'à l'heure actuelle, nous n'avons en effet que peu de connaissances sur la manière dont le cerveau d'un collégien réagit face à des concepts scientifiques fondamentaux. Donc on essaiera d'en savoir plus, mais en tout cas, voilà, les smartphones empêcheraient notre cerveau de comprendre des textes scientifiques. C'est pas la première fois que ce genre d'étude est révélé. L'impact plutôt négatif sur le développement cognitif des jeunes qui utilisent de façon excessive les tablettes, les smartphones ou autres. On en parle depuis un certain temps quand même dans cette émission. C'est là encore une étude supplémentaire qui apporte un élément qui va dans le même sens. Il y a peut-être des questions à se poser effectivement sur le fait de faire un effort dans la lecture d'un texte un peu plus complexe, alors qu'on est plutôt habitué avec les smartphones d'avoir un texte assez simple à assimiler, assez prédigéré. Donc du coup, on ne muscle pas quelque part notre cerveau. C'est encore donc une étude qui apporte un élément qui corrobore cette information. Voilà, on va essayer de voir ce que l'on pourrait faire. Je n'en sais rien, c'est tellement difficile de ne pas se passer de son téléphone. Dernière information avant d'écouter un autre titre dans cette émission Biotine. On va parler un peu d'histoire, c'est pas souvent, et de Cléopâtre. Je crois que c'est la première fois en 10 ans d'émission que je parle de Cléopâtre, la dernière reine de la dynastie macédonienne d'Égypte, qui était connue pour son amour, notamment des parfums, et des parfums un peu enivrants. La légende raconte que pour séduire l'empereur Marc Antoine, nous sommes en l'an 41 avant Jésus-Christ, elle aurait enduit les voiles qui étaient de couleur violette de son bateau avec un parfum si puissant qu'on pouvait le sentir depuis la côte. Alors, dans la vie, oui, ça devait être assez fort. Eh bien, des chercheurs affirment aujourd'hui avoir reconstitué ce fameux parfum. Robert Littman est l'un des 2 archéologues qui a participé au projet. Il dit que c'est un peu le Chanel numéro 5 de l'Égypte ancienne, dit-il en rigolant. En fait, l'idée est née lors de fouilles dans la cité antique de Tel Altimae, qui était située près du delta du Nil. Nous sommes au nord du Caire. Fondée il y a environ 6500 ans, eh bien, cette cité s'appelait à l'époque Tumuis, pardon. Elle était connue en fait pour sa production de parfums, notamment 2 parfums, le mendésian et le métopian. Ce sont des fragrances de luxe à base de myrrhe, de résine extraite d'un arbre originaire de la péninsule arabique et de la corne de l'Afrique. Et ces 2 parfums étaient très appréciés des Égyptiens de la classe aisée. En 2012, Robert Littman et ses collègues mettent au jour une ancienne fabrique de parfums qui date apparemment du 3e siècle avant Jésus-Christ. et sont stockées des amphores, des bouteilles de verre qui contenaient des résidus secs, justement des sept parfums. Des résidus qui étaient complètement inodores, mais qui vont permettre aux chercheurs de pouvoir établir une liste d'ingrédients qui ont servi à la fabrication des parfums. Et ils confient alors leur liste à deux spécialistes allemands de l'Égypte ancienne, afin qu'ils puissent recréer les senteurs selon les méthodes traditionnelles décrites dans des textes en grec ancien. Et comme le mandésian et le métiopan, ce parfum contient donc de la myrrhe, mais aussi de la cardamome, de la cannelle et de l'huile d'olive. Et sa consistance, elle est huileuse, elle est même collante, elle est beaucoup plus épaisse en fait que nos parfums actuels. Et ça va donc s'évaporer moins vite. Ça a une odeur épicée, musquée, qui va persister bien plus longtemps sur la peau. Alors, si on peut que, enfin, on peut supposer que ce parfum a effectivement circulé à l'époque de Cléopâtre. Rien ne permet bien sûr de dire que Cléopâtre l'a elle-même porté, parce que Cléopâtre n'achetait pas ses parfums, mais faisait fabriquer ses propres fragrances, nous dit-on. Cléopâtre se devait de porter un parfum digne de son rang et représentant sa dynastie. Celui-ci devait être bien plus complexe, à l'instar par exemple de celui des rois parthes qui contenait pas moins de 30 ingrédients dans les parfums. Mais voilà, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a voulu essayer de reconstituer des parfums de l'époque. Grâce à ces fouilles, on a pu retrouver des anciennes bouteilles en verre qui contenaient donc des résidus secs de ces parfums. Parfums recréés 2000 ans après. Bah écoutez, je serais bien assez curieux de savoir quelle est l'odeur de ce parfum. Sûrement un parfum, oui, assez puissant, assez fort, assez enivrant à les savoir. C'est beau aussi la science, parler de science, d'histoire et d'archéologie et de parfums. C'est ça, Biotine aujourd'hui, on va parler vraiment de tous les sujets, médecine, parfum, Cléopâtre, et puis on va écouter aussi un petit peu de musique. Bon, c'était un petit peu violent, hein, les Istrata, on est bien d'accord tout à l'heure, même si ça faisait un peu du bien. Là, on va écouter Norma avec Lost and Found sur l'antenne de Graphite, et je vous retrouve juste après.
Thank you.
Ah, c'était plus doux. Last and Found, c'était Norma sur l'antenne de Graphite. Tous les samedis, entre 12h et 13h, nous feuilletons ensemble la revue de presse de l'actualité scientifique. On va parler au niveau médecine. On va revenir sur deux sujets, sur peut-être de bonnes nouvelles, tiens, pour une fois. On va parler du diabète, hein, le diabète de type 2, essentiellement lié au mode de vie, le tabagisme, le surpoids, le manque d'activité physique, bien sûr. Ce sont les principaux facteurs qui contribuent à ce... Pardon, ce... qui contribuent au développement du diabète de type 2, excusez-moi, je vais y arriver. La concentration de sucre provoquée par l'alcool peut porter perturber un petit peu ce contrôle de la glycémie, et il est conseillé aux patients diabétiques de limiter leur consommation d'alcool. Ok, c'est ce que l'on dit, mais, il y a ce qu'on appelle une méta-analyse. Alors, une méta-analyse, c'est en fait analyser différentes recherches, travaux de recherche, différentes publications scientifiques, et d'en faire une analyse globale. C'est ce qu'on appelle une méta-analyse, qui a été présentée lors du congrès annuel de l'Association européenne pour l'étude du diabète. C'était en septembre, eh bien, cette méta-analyse montre que l'alcool pourrait améliorer le métabolisme des glucides des patients atteints de type 2, à condition bien sûr de ne pas en abuser. Hein. L'alcool avec modération, on le sait, le CSA nous écoute. L'étude a été réalisée par des chercheurs de l'université du Sud-Est située à Nankin en Chine. Les auteurs ont analysé plusieurs bases de données afin de passer au crible les études cliniques qui ont évalué la relation entre la consommation d'alcool et le métabolisme du glucose et des lipides chez les adultes atteints de diabète de type 2. Et on a précisément ciblé une dizaine d'études qui vont impliquer pas loin de 600 adultes diabétiques. Et ces études ont montré un effet positif de l'alcool sur le métabolisme du glucose et des lipides. C'est-à-dire que l'analyse a révélé que la consommation de quantités légères à modérées d'alcool diminuait les taux de triglycérides et d'insuline chez les personnes atteintes du diabète de type 2, ce qui est une bonne nouvelle parce que des taux élevés de triglycérides sont un indicateur de diabète. Et donc les chercheurs ont donc établi que boire 20 grammes d'alcool par jour ou moins correspondait à des quantités légères à modérées d'alcool. Concrètement, ça correspond à une canette et demi de bière, un grand verre de vin ou à un petit verre, enfin un petit verre à 50 ml, donc c'est pas grand chose quand même d'alcool fort comme la vodka ou le gin par exemple. Et donc les résultats de cette méta-analyse montrent un effet positif de l'alcool sur le métabolisme du glucose et des graisses chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Il faut bien sûr des études plus approfondies qui sont nécessaires pour évaluer les effets de la consommation d'alcool sur la gestion de la glycémie, en particulier, bien sûr, chez les personnes qui souffrent de ce diabète de type 2. Mais voilà, c'est assez étonnant de constater qu'une consommation modérée d'alcool, hein, on insiste bien quand même sur la notion de modération, mais une consommation modérée d'alcool pourrait aider les patients atteints de diabète de type 2. Mais enfin, ça devient un contresens. Maintenant, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Moi, je ne sais plus. Je n'en sais rien. Aidez-moi parce qu'il va falloir qu'on nous explique maintenant ce qu'il faut manger, boire, ne pas manger, ne pas boire, parce qu'on ne sait plus. Ça n'est plus simple. Autre information, toujours d'un point de vue médical, concerne cette fois le sida. Une mutation génétique extrêmement rare, responsable d'une maladie musculaire touchant une centaine de personnes dans le monde, eh bien, cette mutation crée une immunité naturelle contre le virus du sida. C'est ce qu'ont rapporté des chercheurs espagnols qui espèrent que ce sera une piste pour de nouveaux médicaments contre ce virus du sida. C'est une annonce qui a fait beaucoup parler, je crois, fin août, début septembre, qui a été assez relayée parce que c'était, là encore, assez intéressant. Il y avait une première mutation qui avait été découverte. C'est le fameux patient de Berlin, Timothy Brown, qui a été guéri du VIH grâce à une greffe de cellules souches contenant une mutation rare d'un gène qui confère une immunité naturelle contre ce virus. Et donc là, une seconde mutation génétique résistante au VIH qui a été découverte, elle concerne un autre gène et cette mutation est beaucoup plus rare. Elle a été découverte il y a des années chez une même famille en Espagne qui était atteinte d'une maladie musculaire ultra rare, les médecins se sont aperçus que des chercheurs sur le virus du sida s'intéressaient séparément au même gène parce qu'il joue un rôle dans le transport du virus à l'intérieur des cellules. Alors, ils ont donc contacté ces généticiens de Madrid, ils ont travaillé ensemble, ils ont eu l'idée de tenter d'infecter en laboratoire du sang des membres de cette famille espagnole avec le virus du sida. Et l'expérience va donc livrer une surprise, c'est que les lymphocytes de ceux qui avaient cette maladie musculaire vraiment rare étaient naturellement résistants au virus du sida. Le virus, en fait, n'arrivait pas à rentrer dedans, dans ces lymphocytes. Cela nous aide à comprendre le transport du virus dans la cellule. C'est ce qu'explique à l'AFP le virologue José Alcami. Il travaille à l'Institut de santé de Madrid qui a donc mené ses recherches, publiées notamment dans la revue américaine PLOS Pathogens, qui est aussi une, Pathogens, pardon, qui est aussi une grande revue scientifique dans ce domaine-là. Alors, c'est assez prometteur, bien sûr, parce que ça donne une nouvelle perspective. L'Organisation mondiale de la santé estime à environ 770 000 le nombre de décès liés au sida l'année dernière. C'est quand même une baisse de 56% par rapport au pic recensé en 2004, où il y avait à l'époque près de 2 millions de personnes qui étaient mortes du virus du sida. Alors, certes, le VIH est le mieux connu de tous les virus, mais il y a encore beaucoup de choses qu'on connaît mal. Par exemple, on ne sait pas pourquoi 5% des patients qui sont infectés ne développent pas de sida. Il y a des mécanismes de résistance à l'infection qu'on comprend très mal. Le chemin est encore long pour exploiter cette faille afin de produire un nouveau médicament. Mais la découverte de cette résistance naturelle confirme que le gène en question, qui s'appelle le transportine 3, est une autre cible intéressante pour barrer la route au virus. Voilà, c'est encore une découverte assez intéressante qui amène un espoir certain, bien évidemment, mais comme toujours dans ces cas-là, le temps maintenant va être important parce que il y aura pas mal d'étapes pour pouvoir éventuellement parvenir à une solution thérapeutique, bien sûr. Mais en tout cas, c'était une annonce faite, je crois de mémoire, fin août, début septembre, il me semble, qui avait eu un retentissement assez important, bien sûr. Et si vous suivez cette émission, dans le cadre de la recherche sur la lutte contre le virus du sida, on a de plus en plus de pistes maintenant qui commencent à se concrétiser. Maintenant, il va falloir approfondir les recherches et voir, malheureusement, dans quelques années, les résultats de tout cela. Mais on se souviendra aujourd'hui qu'on aura évoqué en octobre 2019 cette nouvelle mutation génétique naturelle qui permet une résistance contre ce virus. Voilà, on écoute un dernier titre dans cette émission. Et on terminera Biotine avec des dernières informations sur l'actualité scientifique.
Je te avant, pas comme je le croyais.
Laila Como, c'était Sage comme des sauvages sur l'antenne de Graphite. Pour terminer cette émission biotine sur l'actualité scientifique, on va parler de notre cœur. Et oui, pourquoi pas, ce n'est plus un secret depuis longtemps. Faire du sport, on le sait, bénéfique pour notre santé, peut même être utilisé en tant que thérapeutique sur ordonnance depuis 2017. En plus de cela, pratiquer une activité physique est souvent le moyen pour tout à chacun de garder la ligne et de conserver un poids de forme où il se sent bien. Alors, on savait déjà que le cœur des astronautes, par exemple, changer de forme dans l'espace, on en avait déjà parlé, ça augmentait un petit peu leur risque de maladie cardiovasculaire, hein, quand même. Attention. Et à l'inverse, chez les sportifs d'endurance, le cœur devient plus large, avec des ventricules plus allongés, ce qui permet de pouvoir pomper plus de sang et pour plus longtemps. Tout cela apparaît dans une nouvelle étude parue dans la revue Proceedings of the National Academy of Science. Yeah. Les chercheurs ont réalisé une expérience sur 160 adultes qui ont tous des activités différents, des coureurs longue distance, des footballeurs américains, des fermiers amérindiens réputés pour leur capacité d'endurance hors normes et des adultes sédentaires. Et puis pour avoir encore plus de données de comparaison, on a convié à la fête 43 chimpanzés. Allez savoir pourquoi, on n'en sait rien. Eh bien, des différences notables ont pu être remarquées chez tous ces individus. Chez ceux pratiquant une activité d'endurance, le cœur devient plus large et s'allonge afin donc de pomper de plus en plus de sang, tandis que chez les sportifs ayant une activité demandant des efforts à haute intensité en intervalle, eh bien, on voit leur vaisseau se rétrécir. Cela s'explique par les besoins spécifiques de chaque effort sportif. En plus de ses effets contre la douleur, la dépression et de multiples affections pathologiques, le sport permet de modifier donc l'anatomie de votre cœur et donc de vous aider à vivre plus longtemps en meilleure santé. Génial. En effet, les auteurs de cette étude s'accordent à dire que la structure cardiaque des coureurs d'endurance permet de prévenir les problèmes de tension artérielle que rencontre une grande partie de la population. Bien sûr, la sédentarité, si elle est responsable en partie de ses problèmes vasculaires, n'est pas la seule fautive. Le mode de vie dans son ensemble et surtout la consommation d'aliments ultra transformés de façon chronique et excessive participent grandement à favoriser l'émergence de ces problèmes de santé de plus en plus courants. Mais voilà, on a un cœur qui change de forme selon nos activités. On s'en doutait un peu, on se souvient donc, comme on l'a dit, de cette étude qui avait été faite sur les astronautes pour voir un petit peu comment ça se passait au niveau de leurs organes. Et bien maintenant, on en a enfin une confirmation avec cette étude qui nous vient de cette équipe de recherche américaine. Voilà, c'était Biotine, l'émission de science tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. Il y a des émissions qui sont un petit peu plus légères, c'était le cas aujourd'hui et c'est tant mieux. Des émissions émissions qui sont un peu plus lourdes. Ce sera peut-être le cas la semaine prochaine, je n'en sais rien, on verra. La semaine prochaine, on retrouvera aussi Anne Fleur pour les inventions du monde et elle nous proposera encore une nouvelle chronique. Je ne sais pas trop la semaine prochaine où est-ce qu'elle nous enverra, mais on la retrouvera bien sûr. D'ici là, demain, je vous rappelle, 20 octobre, toute la journée de dimanche, vous pouvez participer à la 8e bourse aux disques et aux bandes dessinées organisées par Graphite. C'est au centre de rencontre de la Victoire et c'est à Compiègne, donc profitez-en, c'est gratuit, c'est toute la journée, c'est déjà la 8e bourse aux disques et aux BD. 8e, mais ça passe à une vitesse, c'est effrayant. Demain, donc centre de rencontre de la Victoire à Compiègne, toute la journée et c'est gratuit, profitez-en. Vous pourrez donc également rencontrer l'équipe de Graphite sur place, ça peut être intéressant. Et puis on se retrouve quant à nous samedi prochain 12h pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. D'ici là, vous restez bien sûr fidèles à toutes les émissions de Graphite. Vous avez bien sûr la possibilité de pouvoir récupérer tous les podcasts de l'émission sur le site internet graphite.net. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous retrouve samedi prochain. Je compte sur vous à 12h. À bientôt. Au revoir.